Aujourd'hui, nous accueillons Chris, scénariste de bande dessinée, et Léo, dessinateur dans la même branche. Bonjour Chris.
Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour.
Vous pourriez d'abord nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours.
Je suis brestois, j'ai 50 ans, ça fait 22 ou 23 ans, je crois, que je fais de la bande dessinée depuis le début des années 2000, en tant que scénariste uniquement, pas dessinateur. J'ai publié une quarantaine d'albums, un petit peu plus maintenant, principalement récits historiques, et aussi beaucoup autour du sport, qui est un domaine qui m'intéresse, puisque j'ai longtemps pratiqué le football, le tennis de table, et comme à peu près tous les sports du monde m'intéresse, dès lors que c'est bien, c'est joué avec le cœur. Et puis, voilà, je suis éditeur également, toujours d'une collection consacrée au récit vrai de l'histoire du sport.
Je suis auteur de bande dessinée depuis 2016. Avant ça, j'ai surtout fait des effets spéciaux pour des films de long métrage et l'animation. Après une période de réflexion, je me suis dit que je pouvais très bien aussi raconter des choses en bande dessinée, parce que je dessine depuis toujours. Il a fallu trouver le bon projet pour démarrer, et ça a été la première BD qui s'appelle Chien bleu, chien gris.
Pourquoi avez-vous choisi de baser une partie de votre univers sur des thèmes historiques, notamment la guerre ?
À la fois, c'est difficile à dire parce que, aussi loin que j'ai des souvenirs, l'histoire m'intéressait. Dès que j'avais 5-6 ans, j'allais beaucoup à la bibliothèque parce que ma mère était bibliothécaire. Et en sortant de l'école, il y avait une bibliothèque à 3 mètres et donc il fallait que je prenne un livre à chaque fois, tous les jours. Et principalement des documentaires historiques ou des bandes dessinées historiques déjà. D'ailleurs, ma bande dessinée favorite à ce moment-là s'appelait Les Tuniques Bleues, était une bande dessinée historique que j'ai donc fini par reprendre bien plus tard. En analysant un petit peu ça, j'ai une famille qui a traversé à peu près tous les grands événements historiques du XXe siècle. Jamais à des postes de décideurs ou autres. Dans toutes les réunions de famille, il y avait beaucoup de récits comme ça plongés dans des événements qu'on lit dans les livres d'histoire. Mais sauf que moi, c'était mes oncles, mes tantes, mes cousins ou autres qui m'en parlaient. Donc l'histoire, chez moi, elle n'a jamais été uniquement livresque ou littéraire. Elle s'incarnait dans des gens qui étaient mes proches, en fait. C'était vraiment la chair de l'histoire. Je l'avais sous mes yeux et en parole à chaque réunion de famille. Donc sans doute, d'ailleurs, l'histoire que je raconte, c'est toujours l'histoire vécue par des gens. Enfin voilà, des gens à qui on ne donne pas toujours la parole, très loin de là. C'est les anonymes de l'histoire, mais c'est les grandes cohortes qui font les grands événements.
J'ai choisi de raconter la guerre et une partie de l'histoire contemporaine parce qu'en fait, je pense que c'est important de raconter le passé pour comprendre le présent. En fait, il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'on vit aujourd'hui pour lesquelles on ne se pose pas assez les questions d'où ça vient. En fait, ce n'est pas un reproche que je fais à tout le monde, c'est quelque chose aussi que je constate pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des expressions, il y a des façons d'envisager des problèmes et des choses comme ça que je vis aujourd'hui. Et je sais que maintenant, après avoir fait ce travail-là, ils sont hérités de choses du passé, quoi. Le XXe siècle est assez riche de ce point de vue-là parce que il y a eu deux conflits mondiaux qui ont un peu bouleversé la face du monde. Comme des ondes de choc, on en ressent toujours les résultats, quoi.
Quand vous travaillez sur un sujet historique, utilisez-vous uniquement votre imagination ou faites-vous des recherches ?
Non, il y a énormément de recherches. Après, parfois, pour mieux raconter le réel, on est obligé de passer par la fiction parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits, à tous les moments. On ne peut pas décrire tous les personnages, tous les secondes de chaque événement historique qui n'a jamais été vécu par un seul personnage. Donc on est souvent obligé de synthétiser finalement des choses vécues par plein de gens différents à l'intérieur d'un seul destin ou de deux ou trois destins uniquement. Donc on est souvent obligé de passer par la fiction, mais pour être plus juste en fait, on n'est pas exact. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être exact. Personne ne pourra jamais être exact sur un événement, surtout à 100 ans de distance, des fois même bien plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être juste par rapport à ce qui a été vécu par les gens de l'époque. Donc voilà, il y a énormément de recherches documentaires d'abord, et ensuite, on arrête et on ouvre les vannes de la fiction à partir de là.
Ah non, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Surtout quand on parle d'un sujet historique, faut surtout éviter de raconter des choses erronées ou anachroniques. On a besoin de raconter la réalité de l'époque. Alors après, il y a toujours ce qu'on appelle, entre guillemets, la licence poétique.
Oui.
C'est-à-dire de choisir de déformer une réalité, mais pour avoir du sens, d'un point de vue, on veut raconter quelque chose. Mais il faut quand même faire très attention. Parce qu'on sait très bien aussi que, surtout pour des périodes comme la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a énormément de gens qui ont étudié ces périodes-là, qui en sont même, entre guillemets, fans, qui sont prêts à vous tomber dessus si jamais vous avez fait une erreur factuelle.
Pensez-vous que la BD soit un moyen efficace de transmettre le vécu de la guerre ?
Toutes les guerres ne se prêtent pas à écrire. C'est que déjà, pour pouvoir écrire, il faut quand même être statique, avoir du temps pour soi et tout ça. La guerre de mouvement qui a été la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec beaucoup plus d'événements, de déplacements, etc., était moins propice à engendrer moins d'écrits que la Première Guerre mondiale, qui était beaucoup plus statique dans les tranchées et qui était vécue massivement pour la première fois par une population éduquée, qui avait appris à lire et écrire. C'est pas le cas des campagnes napoléoniennes, par exemple. La meilleure façon de comprendre et évidemment de raconter à ceux qui ne vivaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était de passer par l'écrit. L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle laisse énormément de place au lecteur pour combler les trous lui-même. Une bande dessinée, c'est quelques centaines de dessins, pas plus. Entre chaque dessin, le lecteur fait le lien entre chaque image et imagine tout ce qu'on ne montre pas, en fait, hors champ. Et donc, ça fait énormément appel à ce que vous connaissez d'un événement, ce que vous avez vécu. Si je vous raconte la guerre et que vous ne l'avez jamais vécu, c'est pas la même chose, évidemment, que si vous en avez une expérience intime. Et donc, finalement, la bande dessinée, elle laisse chacun avoir une lecture très personnelle. En fait, elle l'oblige, le lecteur, à s'impliquer.
On raconte une histoire de guerre, il faut essayer de faire ressentir autant que possible ce que les gens sont en train de vivre.
Cette espèce de vécu qu'on dit incommunicable. J'ai vécu la guerre en Irlande du Nord. Quand je raconte Coupures irlandaises, qui est un album autobiographique où je raconte ma guerre en Irlande du Nord, quand j'étais ado, je pense que quand même j'arrive à faire passer quelque chose à un ado de 14 ans aujourd'hui qui n'a jamais vécu la guerre.
Oui, absolument, parce que ça allie plusieurs formes d'art. Il y a l'écriture, bien sûr, mais il y a aussi la représentation graphique, picturale, du dessin qui est très importante parce que les deux racontent l'écrit et le dessin, la couleur aussi je trouve, mais ça permet quelque chose d'assez extraordinaire, ça permet de raconter des choses différentes même, c'est-à-dire que le dessin peut raconter quelque chose de différent de ce qui est écrit dans les bulles, et la couleur peut aussi raconter quelque chose en complément. Pour raconter, certains pourraient dire vulgariser, je trouve que c'est vraiment vraiment important.
Connaissez-vous d'autres artistes qui transmettent le vécu de la guerre?
Ouais, énormément, encore une fois c'est terrible, chaque conflit accouche souvent d'une génération de très grands artistes. Comme si chaque situation paroxystique, hein, de toute façon, met en scène des émotions tellement fortes qu'à un moment donné, il faut les traduire. La Première Guerre mondiale, on estime par exemple que dans les premiers mois de la guerre, entre août et décembre 1914, à peu près 300 écrivains français sont morts. Donc ils n'ont pas eu le temps d'écrire sur la guerre, ou quasiment pas. Par contre, cette guerre a accouché très très grands écrivains. En France, Roland d'Orgelès, par exemple, Henri Barbusse, des auteurs comme ça qui ont écrit d'immenses romans sur la guerre et qui se sont révélés comme écrivains via la guerre. Qu'est-ce qui génère le plus d'histoires depuis l'aube de l'humanité? L'amour et la guerre. C'est les deux situations où nos sentiments sont les plus élevés, on va dire, ou les plus forts, en tout cas, les plus marquants. Et à un moment donné, il faut extérioriser ça.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ouais.